Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle et le prof Taillon s'amuse à décortiquer la loi qui prohibe les manifestations à 50 mètres des hôpitaux, écoles et autres institutions publiques. Ensuite, dans un retour sur le résultat de l'élection fédérale de la semaine dernière, il tente de mesurer les effets de la prise de position de François Legault sur les relations Québec-Ottawa. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, pour le journal et le journal. Alors, Dubé et les infirmières, là, évidemment, je parle du ministre de la Santé et son grand plan pour ramener 4000 infirmières dans le système, ça va pas très bien.
Non, c'est mal parti. Et je te dirais que franchement, moi, j'ai été un peu surpris. Ben, il fallait s'attendre à des réactions mitigées. Mais écoute, ça a été presque entièrement négatif. Moi, ce que j'ai entendu vendredi, donc le lendemain du dévoilement du plan, du côté des infirmières qui ont été interrogées, comme le veut le terme galvaudé là, sur le terrain, là, c'est-à-dire il y a des journalistes qui sont allés rencontrer des infirmières pour leur poser des questions et des ex-infirmières. Et il me semble que le son cloche, là, c'était presque unanime. C'était des primes, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va améliorer mes conditions de travail. Alors que je suis au bout du rouleau, on est épuisé, on veut une garantie de cesser de faire des 16 heures imposées. Et donc le baume, si tu veux, de la prime proposée par Christian Dubé, qui propose une prime qui va de 12 à 18 000 $ dans certains cas, on dirait que ça n'a pas eu comme l'effet de motivation là, escompté. On verra avec le temps, mais il y a l'autre chose, Antoine, dont je veux te parler, et que j'ai trouvé un peu malheureuse, c'est que à l'intérieur du gouvernement, on me signalait qu'ils étaient pas contents parce qu'ils avaient proposé à Nancy Bédard de la FIC, principal syndicat là, d'infirmières, d'être présente à l'annonce du gouvernement pour envoyer un signal positif, pour montrer que le syndicat était d'accord ou appuyait cette démarche-là et insuffler une espèce d'énergie positive là-dedans et qu'elle avait refusé. Et de l'autre côté, moi, je vais aller vérifier avec la FIC. Et à la FIC, on me dit pas du tout, c'est pas vrai, il niait d'avoir été invité. Et au contraire, il déplorait même le fait que on leur a présenté, dans le fond, le plan de M. Dubé juste une heure avant le début de la conférence de presse de jeudi dernier.
Oh, on est dans un cas qui dit vrai.
Ouais, ben là, donc, ça, c'est pas bon, évidemment. Là. On voit qu'il y a de la tension, même en coulisses, et que les deux parties sont pas capables, visiblement, d'être à la même table et de lancer le même signal. Donc, ça aussi, je trouve que c'est malheureusement dommage. L'autre point, Antoine, j'ai pu parler un peu à Christian Dubé vendredi.
Oui. Oui, ta chronique portait là-dessus samedi dernier.
Ben, donc lui, il me dit qu'il s'y attendait. Je suis pas sûr là, tant que ça, mais il dit qu'il comprend les gens d'être sceptiques, qu'il y a tellement eu de promesses de transformation du réseau de la santé dans le passé. Donc, il comprend là, que il y a du scepticisme et tout ça. Mais, il se disait complètement déterminé. M. Dubé se voit comme un agent de changement. Et donc, quand on veut faire des changements, il faut être déterminé, il faut être têtu. Il m'a dit aussi dans une conversation à bâton rompu. Donc, il garde le cap. Mais aujourd'hui, lundi, c'est un moment important. Il rencontre les PDG de l'ensemble des six CIUSSS. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait exiger que chacun fixe une date à partir de laquelle les PDG vont s'engager à ce que dans les établissements de santé, on offre les bons corps de travail aux employés du secteur public d'abord et ensuite aux agences privées et non le contraire. Parce que là, on est rendu là, que des, les, des quarts de travail de jour sont fournis là, par des employés des agences privées. Puis ça évidemment, ça nuit parce que c'est pas ça mais qui aide ça, à offrir des conditions plus stables dans le public. Là.
Ça, c'est une amélioration des conditions de travail. Là. Quand les infirmières disent « c'est beau la prime, mais nos conditions de travail », ça, il me semble que c'en est une amélioration.
Ben oui, sauf qu'il faut voir. Parce que justement, il y a des infirmières qui, vendredi dernier, disaient comment ça se fait. On n'a même pas une date à partir de laquelle on n'aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais là, tu sais, M. Dubé disait « je peux pas annoncer une date et comme on reprochait dans le passé, d'ailleurs, à Danielle McCann, dans la gestion de COVID, elle annonçait des choses en disant « oui, à partir de maintenant, vous allez voir, ça va changer. » Puis finalement, les PDG de CIS ou CIUS disaient « ben non, on n'est pas capable de livrer ce qu'elle a dit. » Bon, alors lui, il a dit « je voulais pas imposer une date moi-même en sachant pas si c'était réaliste. » Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il rencontre aujourd'hui les PDG et que eux, dépendamment de la réalité dans leur secteur, ils vont établir comme un échéancier. Pour offrir des meilleurs cadres de travail. Mais encore là, ça ne veut pas nécessairement dire non plus l'arrêt du temps supplémentaire obligatoire. M. Dubé disait, c'est sûr que aussi que ça va prendre du temps, c'est pas en quelques semaines. Les infirmières qui souhaitent faire revenir au bercail, par exemple des retraités, c'est pas en 2-3 semaines qu'elles vont voir la différence. Il va falloir qu'ils en rentrent pas mal pour que là, l'effet cumulatif se fasse sentir et qu'il y ait moins de temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça va prendre quand même des mois. Alors, et aussi, M. Dubé n'en démord pas. Le manque de personnel, ça, c'est un point là, extrêmement important auquel il doit s'attaquer. Là, il s'attaque maintenant. Mais aussi, il y aura un projet de loi cet automne pour faire en sorte qu'il ait accès aux données de l'ensemble des établissements en temps réel, ce qui lui est permis présentement uniquement en raison de l'urgence sanitaire. Donc, il veut rendre ça permanent. Et l'autre chose, c'est qu'il veut aussi une transformation de l'informatique pour qu'on ait un seul système et de meilleurs outils informatiques, même pour le personnel, là, par exemple dans les urgences, dans les établissements de santé, et que les systèmes se parlent entre eux et que le ministère ait accès à ça. Donc ça aussi, c'est comme un énorme chantier. Il veut tout faire ça dans la dernière année de mandat. Donc, il en a énormément sur les bras. Je dirais presque une mission impossible.
T'écrivais samedi que le réseau est comme un véhicule enlisé, puis on comprend qu'il y a plus qu'une roue qui est prise dans la boue ou la neige.
Oui, exactement. Puis là, ben imagine un peu Christian Dubé avec le cric, comme on dit.
Oui, c'est ça.
Alors, il appelle, donc on lui souhaite bonne chance, mais moi je trouve que c'est ça, c'est... Il en a beaucoup à livrer, beaucoup sur les bras, et c'est sûr que je te dirais que le premier élément, je disais samedi, la base, c'est commencer à faire en sorte de renverser la tendance, c'est que les infirmières n'aient plus ce foutu temps supplémentaire obligatoire qui les décourage et qui incite pas justement même des jeunes infirmières à entrer dans le réseau. Donc, ça, c'est vraiment comme l'étape numéro un, ça presse, et bon, le reste, on souhaite aussi, parce que c'est sûr, là, écoute, moi, j'avais écrit une chronique il y a une couple d'années. J'ai dû passer une nuit à l'urgence dans le corridor.
Oui, je me souviens.
En raison d'un pépin de santé. Et écoute, j'en étais pas revenu là. À quel point il y avait comme un sentiment là, de médecine de brousse là, dans des corridors d'urgence. Puis justement, les papiers remplis au stylo, les cartables à anneaux là, qui claquent là, même en pleine nuit dans les postes d'infirmières que les patients entendent toute la nuit, clac, 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 alors qu'on est supposé être rendu à l'informatique. Mm-hmm. Ça fait pitié.
François Legault nous avait promis des belles écoles, mais on comprend que ça coûte cher, des belles écoles, puis ça force donc ces coûts-là des reports de projets.
Oui, et c'est en raison de la surchauffe aussi immobilière. On sait que, ben, je dis immobilière, oui, mais des coûts de matériaux. Pour être plus précis, c'est que le bois et l'acier, tout a coûté plus cher depuis notamment le début de la pandémie.
Ouais.
Et ça a forcé même de reporter des appels d'offres pour des maisons des aînés. Le bureau d'enquête du journal avait révélé ça. Puis nous, on a fait une vérification, mon collègue Patrick Bellerose, le ministère de l'Éducation n'avait pas de liste vraiment exhaustive, mais on a constaté donc qu'il y a des projets d'école qui sont reportés aussi parce qu'il y a eu des appels de propositions. Et les soumissionnaires présentent des projets avec des coûts trop élevés par rapport aux projets qui étaient prévus par les centres de services. Notamment, il y a un lab école en Estrie. L'augmentation était de 58 % des coûts là, par rapport à ce qu'on avait évalué. Et le plus bas soumissionnaire, donc on a décidé de mettre ça sur la glace. Et ils devront voir à représenter le projet d'une façon différente. On a vu d'autres écoles, notamment à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Alors, Patrick Delrose a au moins quatre exemples là, d'écoles qui dont la construction va être reportée parce que l'appel d'offres a révélé là, des coûts qui étaient trop élevés par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça aussi, je te dirais que c'est un petit peu un réveil brutal. Je voyais dans une entrevue que Jean-François Roberge, en décembre 2018, donc pas longtemps après avoir été assermenté comme ministre de l'Éducation, il disait non seulement qu'il voulait des plus belles écoles, mais qu'il voulait aussi que ça aille plus vite. Il voulait qu'on construise des écoles en 3 ans maximum au Québec, alors que ça prend 4 à 5 ans. Mais là, on est mal parti parce que la surchauffe des coûts fait en sorte que même on retarde des projets. Donc, j'imagine que ça ne lui fait pas plaisir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire là-dessus cette semaine. C'est sûr que ce sera un sujet pour lui. Là, il devra un peu répondre là-dessus et voir quelle est l'ampleur, là, je te dirais, des dommages par rapport aux prévisions qu'ils avaient, parce que j'ai l'impression que ça va affecter le nombre d'écoles et de belles écoles là, qui voulaient inaugurer avant la fin du mandat à la baisse, malheureusement.
En terminant, Rémi, on comprend que Québec solidaire a entrepris une vaste repopulation du Québec. Et ils ont des enfants les uns après les autres. Puis là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a annoncé en fin de semaine qu'il devenait papa.
Oui, alors imagine la grosse année, devient chef parlementaire de Québec solidaire et en plus, ben va devenir papa. C'est une magnifique nouvelle et il a partagé même sur les réseaux sociaux aujourd'hui une photo de lui. Il dit qu'il y a tellement eu de commentaires positifs. Il a même reçu un cadeau, comme une petite pièce de vêtement pour bébé qu'il exhibait sur Twitter.
Ouais,
et
ouais.
Fait noter, lui, lui-même portait un T-shirt des Expos de Montréal, ce que je salue. C'est de belles couleurs affichées pour M. Nadeau-Dubois. Et ça fait donc, après Sol Zanetti, qui avait eu un enfant l'année dernière, Catherine Dorion, ben, un autre donc de Québec solidaire, effectivement, tu disais.
Émilie Lessard-Terrien aussi.
Oui, Émilie, tu as raison. Écoute, ça fait vraiment...
Non, je te dis, il repeuple Québec.
Exact. Ça va
mais
faire
en tout
de nombreux solidaires.
Ça change son image, Gabriel Nadeau-Dubois, de jeune révolutionnaire, un peu tête brûlée, à chef de parti d'une gauche qui veut de plus en plus être une gauche de gouvernement. Et là, écoute, futur papa, c'est quelque chose. Ça, c'est un changement d'image, une évolution
voilà,
importante.
Et une grosse année.
Ouais.
Effectivement, là, que pour lui, c'est une transformation assez complète.
Merci beaucoup, Rémi. Je te souhaite une belle semaine et on se reparle tous les jours cette semaine, je tiens à le dire, aux nombreux auditeurs de La Haut sur la colline.
À demain!